La Chine veut le contrôle. Elle veut contrôler ses racines maritimes, ses goulets d'étranglement. Elle veut pouvoir exercer une pression si et quand elle le juge nécessaire.
Nous devons accepter le fait que parfois, des choses qui ne nous plairont pas se produiront.
C'est un défi de sécurité et de défense. Eh bien, cela nous amène assez clairement à la partie suivante de cette discussion, où la question est la suivante. Le déclin relatif des forces navales américaines et occidentales, dont nous avons entendu parler, est-il un signe de la fin de la domination occidentale, et la Chine deviendra-t-elle la puissance mondiale du futur, notamment, je suppose, parce qu'elle évolue dans la direction opposée, je veux dire, brièvement, je suppose que c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que vous pourriez penser, je veux dire, je ne pense pas que les performances passées
soient nécessairement une garantie de réussite future. Et la Chine a beaucoup de problèmes internes en ce moment, mais elle continuera certainement à être une puissance. La courbe de croissance à partir de maintenant sera déterminée par de nombreux autres facteurs, et pas seulement par la puissance navale, mais aussi par sa marine. Quelle est l'ambition navale de la Chine? Elle vise essentiellement à interdire le contrôle de la première chaîne d'îles afin de pouvoir envoyer ses sous-marins dans le Pacifique et à interdire l'accès des Américains à ses eaux. Elle essaie donc de contrôler son voisinage maritime. Il pourrait argumenter pour des raisons de sécurité, mais encore une fois, contrôler ce voisinage maritime signifie qu'ils contrôlent les points d'étranglement. Ils n'ont pas besoin de lancer une guerre. Ils doivent juste resserrer les vannes, resserrer les vis, et nous commençons tous à souffrir. Nous commençons tous à souffrir. C'est un pouvoir considérable. Et s'il en arrive à ce point, alors, vous savez, ils sont en mesure d'imposer leurs conditions sur toute une série de questions sans tirer un seul coup de feu.
Et sur une zone beaucoup plus vaste que celle où ils opèrent actuellement.
Oui, en effet, je veux dire, la petite, c'est encore une fois la mer de Chine méridionale. Très peu de coups de feu ont été tirés. Je veux dire presque aucun. Et c'était certainement une opération qui a été menée en deçà du seuil d'une réponse militaire. Et vous savez que Sun Tsu, le stratège chinois très mal compris, dit que la meilleure guerre est celle que vous n'avez pas à mener. Donc vous savez que si vous pouvez vous retrouver dans une situation comme celle que la Chine est en train de construire et dans laquelle vous pouvez exercer un contrôle par des moyens non militaires, au moins par des moyens non cinétiques, alors vous avez du pouvoir. C'est ça le pouvoir. Puis-je vous poser une question à ce sujet? Quelle est la prémisse majeure de cette conversation? Est-ce que nous devrions tous être la plus grande puissance du monde? Est-ce que nous ne pouvons pas supporter le fait que les Chinois aient soudainement réussi un miracle et soient devenus une grande puissance en l'espace d'une génération? Est-ce que l'Amérique n'est plus capable de diriger le monde? Quelle est la prémisse majeure de tout cela?
Eh bien, c'est les moyens par lesquels ces choses sont accomplies. Disons que nous ne pouvons rien faire pour les moyens. Et nous, nous semblons être ici. Nous sommes à Londres, en train de débattre de ce sujet. Je parie qu'ils ne sont pas à Copenhague ou Berlin ou ailleurs. Je dis juste, pour l'amour de Dieu, laissez le monde tranquille une minute. Il crée déjà un désordre suffisant. Chaque fois que nous nous impliquons dans le monde extérieur, nous le créons, et même pire. Et la seule chose que nous devons essayer de faire, c'est de dépasser cette attitude néo-impérialiste selon laquelle quelque chose qui va mal, quelqu'un de plus puissant quelque part dans le monde, est un désastre pour nous tous. Moi-même, de toute suggestion de néo-impérialisme. Ce que je dis, c'est que nous sommes un petit pays.
Et que nous devons comprendre les forces qui affecteront notre bien-être, notre économie et notre capacité d'agir. Et donc si vous voulez, vous devez considérer le choix entre la Pax Sica et la Pax Americana, non pas parce que vous savez que nous avons des ambitions impériales rebelles, mais parce que c'est notre réalité, et je vous promets qu'ils en débattent au Danemark et à Berlin exactement pour les mêmes raisons que nous devrions le faire, que les choses qui affectent notre capacité à être nous-mêmes sont de grande force, de grande puissance, très loin.
Très bien. Eh bien, laissez-moi faire intervenir Duncan, car laissez-moi vous demander d'enlever votre joli chapeau d'amiral britannique. Vous
l'avez enlevé. Mettez une émeraude chinoise. Je n'ai aucune idée de ce à quoi cela ressemble. Conseilleriez-vous au
gouvernement de dire, si vous voulez être cette puissance dominante, ce que nous pensons qu'ils font, que la construction d'une grande marine est la voie à suivre? Eh bien, les pays ont adopté ce point de vue à travers l'histoire. Ainsi, Pierre le Grand, vous savez, voulait que la Russie devienne une nation maritime. Vous savez, l'Allemagne impériale et l'Allemagne nazie avaient la même ambition. C'est presque un réflexe qui va avec la puissance, mais c'est aussi une reconnaissance de l'importance de la mer pour la communauté mondiale de la formation et du commerce. Je pense qu'il y a juste deux points à souligner ici. Je veux dire, nous discutons de la philosophie de la puissance navale, pas des plateformes particulières qui sont utilisées à un moment donné. Les capacités navales ont évolué au fil du temps. Vous parlez donc également de la puissance sous-marine.
Oui, eh bien, sous la mer, vous savez, les sous-marins existent depuis 120 ans à l'heure actuelle. Et je peux vous assurer que si un sous-marin nucléaire britannique se trouve dans la mer de Chine méridionale, c'est d'une telle importance. Il clignote probablement lorsque Xi Jinping est assis à bord, alors qu'un petit navire de patrouille est probablement insignifiant et n'est pas là. Donc, vous savez, la puissance navale, et je pense qu'il est important que nous vivions dans le monde tel qu'il est, plutôt que tel que nous voudrions qu'il soit. Et si vous regardez le réarmement, la façon dont la Chine se comporte, les bleus parfumés de la classe aisée dont j'ai parlé dans le Grand Nord, qui va bientôt devenir, très probablement, l'une des autoroutes.
C'est donc la route qui traverse là.
Russie, du Pacifique jusqu'au. Et vous savez, j'ai passé ma vie à étudier la Russie, la Chine aussi, dans une moindre mesure, et je m'en remets à Israël, mais je ne veux pas prendre le risque que d'une manière ou d'une autre, ce sera gratuit et facile à faire et l'autre point qui a été soulevé est le débat. Je peux absolument dire que toute l'Europe débat de cette question. De la séparation, mais aussi de la révolte. Russe, de la montée de la Chine, de l'interconnexion entre l'Atlantique Nord et l'OTAN, en passant par la région Indo-Pacifique, jusqu'à ce que nous considérions comme des acteurs hostiles et contraires à nos intérêts là-bas.
Simon dirait que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de rester les bras croisés.
Mais je pense que nous devrions également nous demander, une grande partie du monde débat de cette question et beaucoup d'entre eux se demandent qui soutenir dans cette course. Dois-je soutenir la Chine? Ou les États-Unis? Et si nous nous retirons de ce défi, ce n'est pas une guerre, c'est une dissuasion classique, il s'agit d'endiguer. Il s'agit de démontrer que nous avons nos valeurs et des choses auxquelles nous croyons également. Et lorsqu'il s'agit de la haute mer, du libre-échange mondial, et je ne dirais même pas que je ne suis pas convaincu que les marchés puissent gérer cela tout seuls, comme nous le voyons avec l'ombre russe en ce moment. Eh bien, permettez-moi de revenir sur ce point avec Simon, car je veux dire que
nous entendons l'argument selon lequel il ne faut pas rester les bras croisés comme vous le souhaiteriez peut-être et ne pas intervenir. Ce qui est ce que je sais que vous et vous pensez être la voie à suivre. Mais tout ce que nous entendons suggère que ce n'est certainement pas la façon dont on envisage les choses dans les capitales européennes, aux États-Unis et ici. Je veux dire que tout pays sensé se préoccupe de sa défense et s'inquiète de sa sécurité. Je comprends parfaitement cela. Et cela inclut d'être sensible à sa défense économique ainsi qu'à sa défense militaire. Tout ce que je pense dire, c'est que si votre approche du monde extérieur est basée sur la suspicion et l'hostilité, et que vous dépensez des sommes énormes pour vous protéger contre l'issue la moins probable, qui est une invasion navale des îles britanniques, alors le danger est que vous ne faites qu'aggraver le risque de conflit. Je pense que la façon dont la Russie a été traitée depuis la démolition du mur de Berlin a atteint son paroxysme avec Poutine et l'Ukraine. Si vous traitez la Russie d'une manière que tous ceux qui connaissent la Russie considèrent comme très risquée, cela finira par s'avérer risqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de la Russie. Il se pourrait bien que ce soit le cas de la Chine, qui dépend tellement du commerce avec l'Occident. Je veux dire, son économie est intégrée à l'économie américaine de toutes sortes de façons. La probabilité que la Chine veuille entrer en guerre avec l'Amérique, en particulier une guerre maritime, semble très improbable. Je veux dire, Isabelle, j'en sais plus sur ce sujet que moi. Je veux dire, cette question a certainement été posée au moins au cours de la dernière décennie, je pense, à Washington. Dans quelle mesure une guerre entre la Chine et les États-Unis est potentiellement imminente? Eh bien, les correspondants de la défense ont dû écrire sur quelque chose. Très bien. Je veux dire, oui, si vous voulez une guerre, vous pouvez aller la déclencher. Dieu sait que l'Amérique, au cours des 25 dernières années, a déclenché 5 ou 6 guerres. Elles ont été totalement inutiles, à l'exception d'une au Kosovo. Vous savez, ce n'est pas une bonne idée de voir le monde entier comme nous le voyons. Je veux voir une situation dans laquelle nous nous entendons bien avec les Russes, avec les Chinois, et nous pourrions même faire une ou deux erreurs dans ce sens. Néanmoins, il me semble que nous avons intérêt à bien nous entendre avec les gens. La puissance douce est meilleure qu'une puissance forte. Et tout ce que je vois en ce moment, c'est que personne ne parle de cette façon. Personne n'est intéressé à faire la paix ou que ce soit. Que ferons-nous si ces gens sont plus forts que nous? et c'est une façon très dangereuse de voir le monde. Eh bien, nous parlons ici de la Chine. Nous parlons de la Chine dans ce contexte, Isabelle. Est-il vrai que la Chine n'a aucun intérêt à utiliser sa marine de la manière dont beaucoup de gens le pensent?
Eh bien, je pense que non. La Chine veut-elle une guerre ouverte avec l'Amérique? Non. Mais ce que j'ai expliqué, c'est comment exercer une pression et comment gagner du pouvoir sans avoir recours à une guerre ouverte. Et c'est ce qui s'est produit. Vous savez, personne n'a invité la Chine à militariser la mer de Chine méridionale. C'était un projet chinois et il a bouleversé tous les voisins proches de la Chine. Vous savez, il y a encore, vous savez, il y a un navire, le Sierra Madre, un vieux navire de guerre que les Philippines ont embarqué sur le Tomasho dans les eaux territoriales des Philippines afin de maintenir une présence militaire. Il est en train de tomber en morceaux. Les Chinois ont commencé à entraver le ravitaillement de ce navire. Vous savez, ces choses-là se produisent tout le temps. Si vous voyiez le comportement de la marine chinoise en mer de Chine méridionale, vous ne penseriez pas que c'est tout à fait bénin et sans ambition. Et cela ne nous concerne pas. Cela concerne tous les voisins de la Chine en mer de Chine méridionale. Cela concerne le Vietnam, les Philippines. Vous savez, ce sont des pays souverains avec des eaux territoriales qui sont occupées par la Chine.
Mais que veut la Chine avec cela?
Eh bien, la Chine veut le contrôle. La Russie veut contrôler ses routes maritimes, ses goulots d'étranglement.
Elle veut pouvoir exercer une pression si et quand elle le juge nécessaire. On pourrait dire que c'est de la défense. Poutine fait la même remarque. Si l'OTAN s'approche trop de nous, il doit être sûr de pouvoir se défendre contre toute intention hostile. Et Sam a raison dans le sens où la rhétorique que nous voyons entre un Washington militant et un Pékin militant est assez inutile. Parce que vous tombez dans ce qu'on appelle le piège sécuritaire où un camp fait un geste et l'autre dit « Oh, vous savez, je dois répondre ». Alors, vous avez une montée des tensions, et nous l'avons vu, mais vous savez, il est assez difficile à ce stade d'avoir une conversation rationnelle, le genre de ligne directe, le genre de canaux de communication que nous avions auparavant. Et ce n'est pas entièrement la faute des États-Unis. C'est la faute des deux camps. Je ne dis pas que la Chine va lancer une guerre demain. Ce serait absurde. Mais je dis que si vous n'êtes pas attentif à la façon dont le pouvoir est exercé en ce moment, et que la carte est en cours de préparation, vous allez vous retrouver pris par surprise. Permettez-moi de vous dire, et je suis désolé, que tout cela n'est pas si lointain. Il y a environ un an, un navire chinois, un cargo appelé le New New Polar Bear, a traversé la mer Baltique, accompagné d'un navire de guerre russe à propulsion nucléaire, et au moment où les deux ont quitté la mer Baltique, ils avaient sectionné deux câbles de communication et un pipeline énergétique dans la mer Baltique. C'est vrai. Maintenant, Taïwan dépend à nouveau des câbles, tout ce que vous savez, c'est qu'il dépend des câbles pour son énergie éolienne offshore, pour ses communications, absolument tout. Le problème avec les transactions financières, c'est que toutes ces infrastructures sont vulnérables et tout cela est en train d'être cartographié par les navires russes en ce moment même. Si vous suivez ce que font les navires russes et où ils traînent, toute cette infrastructure sous-marine est cartographiée. Donc vous savez que c'est une question de dissuasion si vous voulez garder vos communications et votre énergie en sécurité. Vous devez réfléchir à ce genre de choses.
Simon, vous n'êtes pas d'accord? Non. Je veux dire, j'essaie de vous comprendre, vous dites que nous serons pris par surprise. Nous ne le serons pas, nous n'aimerons pas qu'ils le fassent. Je veux dire, toutes sortes de choses se produisent dans le monde où je vais être pris par surprise et je n'aimerais pas que cela se produise. La question est de savoir ce que nous sommes censés faire à ce sujet. Et l'hypothèse selon laquelle nous pouvons d'une manière ou d'une autre agiter des mains ou des baguettes ou lancer des batailles et que le monde fera ce que nous voulons n'est plus réaliste. Nous devons faire face au fait que parfois des choses se produiront que nous n'aimerons peut-être pas.
Point. Mais il ne s'agit pas que le monde fasse ce que nous voulons. Je ne suis pas vraiment dans un projet néo-impérialiste. C'est un défi de sécurité et de défense.
Eh bien, sur ce point, ce qui nous amène à la partie suivante, je vais vous parler de Duncan, parce que je pense que c'est...
Oh, je veux juste faire un tour très rapide. Je...
veux juste revenir sur ce point, à savoir que 95% des personnes qui portent un uniforme que je connais dans les trois armées ne désirent pas la guerre par vanité. Ils sont motivés par la prévention et par la notion de dissuasion. Et si vous regardez la Russie, je pense qu'Isabelle a parlé de la Chine, mais quand la Russie est entrée en Géorgie par l'Akhazia et l'Aïssi du Sud, quelle a été notre réaction? C'est assez mauvais, mais nous n'allons pas vraiment faire quoi que ce soit à ce sujet. Et puis, des petits hommes verts sont apparus après les Jeux Olympiques en Crimée, qui sont très sacrés pour la Russie. Je comprends tout ça, mais qu'avons-nous fait? Rien. Vous savez, quelques fanfares aux Jeux Olympiques ne font vraiment pas bouger les choses. Où cela s'arrête-t-il? Qu'aurions-nous dû faire?
Eh bien, je pense que nous aurions dû adopter une approche beaucoup plus ferme. Et quand je dis « nous », je ne parle pas du Royaume-Uni, je parle des États-Unis, ou de l'Occident en général. Car si vous allez à Volso ou à Ria ou à n'importe qui d'autre, ils ont peur pour leur état existentiel et leur histoire est jonchée de Russes qui font cela aussi. Alors, investissez dans une police d'assurance plutôt que de succomber aux autocraties, car si nous laissons les autocraties devenir la force dominante sur la planète, je suis absolument certain que toutes nos vies seront diminuées.
Cela nous amène très clairement à la ligne suivante et finale de cette discussion, à savoir si l'Occident perd sa domination sur les mers, quel sera le résultat?